Shabbos Kodesh. Yidela prepare for Shabbos Kodesh. Joy is in the air for Shabbos Kodesh. Everyone with a soul aflame to meet the Shabbos Kodesh. Everyone with a role to play to greet the Shabbos Kodesh.
Bonjour à tous et bonjour à toutes pour ce nouveau rendez-vous du commentaire de la paracha de la semaine par Harold Avraham Weil, le grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin. Monsieur le grand rabbin, bonjour, rebonjour, re-rebonjour.
Re-rebonjour, j'ai passé une grosse journée à la radio, mais c'est avec un plaisir presque intact, hein, Jean, que je vous retrouve chaque semaine.
Cette semaine, ce sera, nous lirons la paracha de Vayera, à ne pas confondre avec une autre paracha qu'on lira plus tard. L'allumage des bougies ce soir avant 16h34 et demain, la fin du Shabbat, ce sera à 17h44. Les horaires sont valables pour Strasbourg et sa région. Je voulais avant tout souhaiter un grand Mazal Tov à Ilanit et Shalom Shouraki pour la naissance de leur garçon. Mazal Tov évidemment aux parents, aux petits garçons et aux grands-parents qu'on embrasse bien fort. Avant de parler de la paracha, M. Grandbin, on va revenir sur l'actualité de la semaine ici au Consistoire. C'est le Shabbat mondial, Shabbat Project. Est-ce qu'il y a quelques activités qu'on peut donner comme ça à nos auditeurs avant de faire le programme pour tout à l'heure?
Tout à fait. On les a déjà rappelés, je pense, sur cette antenne tout au long de la matinée. Mais il est important de les rappeler encore et encore, surtout que notre émission est diffusée à une heure, je pense, où beaucoup de monde nous écoute. En tout cas, on l'espère. Et alors, même si vous aurez un petit peu de mal à vous inscrire à cette heure-ci pour les repas shabbatiques de ce soir et de demain, on vous attend pour autant, même pour celles et ceux qui ne se sont pas inscrits au repas, très nombreuses et nombreux, pour le grand office de ce vendredi soir qui aura lieu à la Grande Synagogue. Vraiment, on vous attend nombreuses et nombreux parce que nous vivrons un moment, comme chaque année, très très convivial. C'est un moment unique hein, dans l'année, pour ceux qui l'ont déjà vécu, où la Grande Synagogue est pleine à craquer, un office de Shabbat ponctué de danse, avec un office Karl Bach. Et donc on rappelait que nous étions hier, le jour du Yortzeit, le jour anniversaire du décès de Shlomo Karl Bach, hein, l'un des plus grands compositeurs de musique juive jamais connu dans l'histoire. Et donc l'office qui porte son nom est tout simplement un office dans lequel eh bien, nous chantons ces airs, qui sont des airs pour la plupart extrêmement connus, des airs entraînants. La première partie de l'office sera assurée par un chazan qui a une voix très agréable, qui est le chazan d'Amira Nathan Wolf. Et la deuxième partie de l'office, hein, comme chaque année, on aime qu'il y ait une partie ashkénaze et une partie séfarade pour l'union et pour qu'on ait un vrai moment de partage dans la communauté, sera assuré cette année par Yoel Ben Simon. Donc on vous attend très nombreuses et très nombreux. Et possibilité encore, en revanche, de nous rejoindre demain soir, Motsei Shabbat, à 20h, toujours à la Grande Synagogue de Strasbourg, pour une Avdala Party, avec un concept tout à fait original. On en a parlé ce matin avec notre ami Avi Wayon, qui est à la baguette, le chanteur Avraham David, hein, notre star international originaire de Strasbourg, même s'il est du Maroc, mais moi je dis qu'il est originaire de Strasbourg parce que c'est un Strasbourgeois d'adoption. Et donc un concept, on l'a dit, tout à fait inédit cette année, puisque nous ne serons pas dans la formule d'un concert, mais plutôt d'un kumzitz. Un kumzitz, c'est-à-dire un moment où tout le monde chante, où on partage finalement les chansons avec le public. Les chanteurs, les musiciens seront eux-mêmes plus près du public. Et donc, on a un petit peu moins de musiciens, deux musiciens qui accompagneront Avi Wayon, mais également David Gerst. Et on sera amené donc à chanter tous ensemble. Vous verrez que ce sera un moment vraiment fabuleux et qui est tout à fait dans l'esprit du Shabbos Project. Vous ne serez pas spectateur, mais acteur de cette soirée.
Alors, juste une parenthèse pour les gens qui n'ont pas l'habitude de venir dans la Grande Synagogue. Munissez-vous de votre carte d'identité. Ça va être beaucoup plus simple pour la sécurité de pouvoir gérer tout le monde qu'il y aura. Voilà pour l'info. On parle de la paracha.
On parle de la paracha, bien sûr.
Et en fait, le résumé.
N'oublions pas que nous sommes là pour ça. Paracha de Vayera, Une paracha qui va nous parler principalement d'Avraham Avinu. Bien sûr, on a déjà vécu toute une partie de l'histoire d'Avraham Avinu dans la paracha de la semaine dernière, la paracha de Lech Lecha, et nous continuons les aventures, en quelque sorte, d'Avraham Avinu, donc premier patriarche et fondateur, en quelque sorte, nous l'avons dit, du peuple d'Israël, avec, donc, dès le début de la paracha, la mise en avant des qualités d'Avraham Avinu en tant que Achnasat Orchim, c'est-à-dire l'hospitalité, tout ce qui tourne autour de l'hospitalité. Avraham malade, troisième jour après la Brit Mila, qui ne va pas hésiter à aller finalement au-devant de ce que l'on exige de lui pour recevoir ces trois anges qui lui apparaissent sous la forme d'hommes en plein milieu du désert et les inviter. Ces trois anges sont là pour trois missions, en réalité, qui vont un petit peu nous permettre de passer notre paracha en revue. Il y en a un qui est là pour guérir Avraham, il y en a un qui est là pour annoncer une très très bonne nouvelle, qui est celle de la naissance d'un enfant, d'un fils, par lequel passera toute la postérité d'Avraham et de Sarah. Et le troisième ange qui est là pour détruire la ville de Sodome. La destruction de la ville de Sodome, donc Sodome, qui est une ville dans laquelle on ne respecte plus aucune règle de solidarité, une ville dans laquelle l'égoïsme et l'égocentrisme sont tout simplement au centre de toute morale, si tant est qu'il y ait une morale, parce qu'il n'y a plus aucune morale,
si
justement.
Si vous faisiez toutes les questions, ça va être difficile.
Ah non, on les passe simplement en revue. Et donc cet épisode-là est un épisode marquant, puisque c'est quasiment la seule fois, je pense, dans la Torah, à part l'histoire du Maboul où le monde entier a été détruit, où il y a vraiment toute une partie, toute une ville entière qui va être totalement détruite et totalement ravagée par Dieu. Il y aura à ce moment-là le sauvetage de Lot, qui va réussir à se sauver, avec notamment donc, sa femme, dans un premier temps, qui sera transformée en statue de sel, mais également ses deux fils. C'est important parce qu'on sait que de grands personnages sortiront et descendront de Lot. Puis il y a un épisode un petit peu similaire à celui que nous avons vécu dans la paracha de Lech Lecha, avec l'enlèvement de Sarah par Avimelech, et à la fin de la paracha, un épisode extrêmement important, la naissance d'Itsrak. Voilà, comme promis au début de la paracha, comme annoncé par l'ange à Sarah, le miracle se produit. Avraham a 100 ans, Sarah a 90 ans, et pourtant, il donne naissance à ce fils tant attendu, qu'ils vont nommer Itsrak. Et à peine ce fils né, en tout cas, à peine a-t-il eu le temps de grandir chez ses parents. Il a quand même 37 ans, malgré tout, mais on sait que la Torah passe parfois sur silence quelques années qui n'ont pas forcément d'importance pour le lecteur, que nous assistons à la dernière des épreuves imposées à Avraham, et pas des moindres, celle de la ligature d'Itsrak, puisque Avraham se voit confier par Dieu la mission de venir sur le mont Moria pour y sacrifier ce fils unique qu'il a attendu pendant tant d'années.
Alors, vous l'avez dit, dans les premiers versets de cette paracha, il y a deux grandes mitzvot, celle, vous l'avez dit, de Achnasat Orchim, c'est-à-dire de recevoir des invités, et la deuxième, celle que vous faites avec le Rabbin Swingard régulièrement, c'est celle d'aller visiter les personnes qui sont souffrantes, ce que fait Dieu vis-à-vis d'Abraham.
Tout à fait.
Ces deux mitzvot extrêmement importantes et qui se corrélèlent ou pas?
Ce sont deux mitzvot extrêmement importantes, puisque ce sont deux mitzvot qui sont au centre de ce que l'on appelle les mitzvot Benadam Lachavero, de ces rapports que l'on se doit d'entretenir avec les autres et de l'importance que l'on doit donner à l'autre. On le sait que finalement, c'est au travers de l'expérience des rapports que l'on entretient avec l'autre que l'on est capable d'exacerber et de sublimer un petit peu les rapports que nous allons entretenir avec Dieu. C'est un petit peu un laboratoire, ces expériences que nous vivons avec les autres, les personnes qui nous entourent. Et donc, effectivement, ces deux mitzvot qui sont mises en avant par le début de la paracha sont deux mitzvot extrêmement importantes. Nous voyons comment Avraham, bien que dispensé d'accomplir cette mitzvah de Achnasat Orchim, de recevoir les invités, va aller au-delà de ce qui lui est recommandé, tout simplement parce qu'il est porté par cette envie d'aider les autres. Avraham n'essaye pas ici de faire de l'excès de zèle, mais c'est, j'ai envie de dire, de manière tout à fait naturelle qu'il est amené à aller vers les autres pour les accueillir.
Ou pas.
Avraham ne sait pas qu'il s'agit d'anges.
En tout cas.
Il ne le sait pas. Et d'ailleurs, j'attire votre attention, mon cher Jean, sur le fait que lorsque la Torah nous les présente, elle nous dit qu'il veine shlosha anashim, et voici trois hommes. Nitzavim alav qui se dressaient devant lui. Ils ne sont pas présentés par le texte comme des anges, mais comme des hommes, tout simplement parce qu'ils avaient pris l'apparence d'hommes et qu'Avraham lui-même ne savait pas qu'il s'agissait d'anges. Contrairement à ce qui se passera un peu plus tard dans la paracha concernant Lot, où Lot va également avoir cet accès de bonté, de générosité. Il va chercher à accueillir les hommes qui sont venus lui rendre visite, mais qui, là, pour le coup, sont présentés par le texte comme des anges. Donc on voit qu'ici, Abraham ne cherche pas du tout à se glorifier. Il ne les accueille pas parce qu'il s'agit d'hommes éminemment importants, et justement des anges qu'on pourrait ici imaginer comme des créatures extrêmement importantes qui mettraient un petit peu Abraham en avant, hein, avec tout le kavod, tout l'honneur qui peut
découler
de la relation avec ces personnes. Mais tout simplement parce qu'Abraham a envie d'aider les autres, quels qu'ils soient, et même s'il s'agit d'hommes extrêmement simples, ce qui n'est pas, donc, comme nous l'avons dit, le cas de Lot, qui lui a plutôt tendance à s'illustrer dans la relation à l'autre lorsque celle-ci peut également lui apporter quelque chose en
retour. Et le fait que Hachem vienne visiter finalement Abraham, c'est aussi là aussi une autre mitzvah très importante, d'aller visiter des personnes qui sont souffrantes.
Effectivement, la mitzvah de Bikur Cholim, donc la mitzvah de rendre visite à des personnes malades, on ne peut pas imaginer dans quelle détresse se trouvent les personnes qui sont souffrantes. Elles doivent affronter à la fois la douleur qui est souvent une douleur physique, mais également une douleur psychologique. Voilà, une grande détresse qui est liée à leur état, le fait de savoir est-ce qu'elles pourront recouvrer la santé, le fait de parfois d'être extrêmement isolé, parce que lorsqu'on est malade, lorsqu'on est hospitalisé, on est souvent très très isolé, et donc la présence, parfois la simple présence, même sans parole, réconfortante de celui qui vient vous rendre visite, eh bien, est tout simplement presque du domaine du retour à la vie. Et c'est la raison pour laquelle cette mitzvah de Bikur Cholim est une mitzvah aussi importante. Vraiment, on considère que la personne qui vient rendre visite, en quelque sorte, vient ramener la personne souffrante, la personne malade, à la vie. C'est une mitzvah inestimable.
Ouais. Ce qui nous permet de saluer le rabbin Klaus Fingarn qui fait ce travail-là avec vous pour visiter les malades.
Je pense qu'il serait très gêné, mais je pense en effet qu'il mérite d'être salué pour le travail inlassable qu'il fait tous les jours et depuis maintenant un certain nombre d'années, et surtout qu'il fait avec beaucoup, beaucoup d'amour.
Vous aussi d'ailleurs, vous faites la visite aux malades. On apprend donc que trois anges sont venus voir Abraham. Et on dit chacun a sa mission. Ça veut dire pourquoi un ange ne pourrait pas faire deux ou trois missions en même temps ?
Tout simplement, Jean, parce qu'un ange n'est pas un homme. Un ange n'est pas un homme, et c'est tout ce qui fait la grandeur de l'homme. Ce qui fait la grandeur de l'homme, c'est sa capacité à pouvoir faire plusieurs choses, c'est sa capacité surtout à faire évoluer les choses, ou tout simplement à pouvoir évoluer lui-même. Un ange ne peut pas évoluer. Un ange est tel qu'il a été créé. Il a une mission à accomplir. Il ne peut accomplir que cette mission parce qu'il a été créé pour Dieu, par Dieu, pour accomplir cette mission. Il n'a pas de possibilité ni d'évoluer, ni de se détourner de la mission qui lui a été confiée. Il n'est qu'un émissaire, en quelque sorte, de Dieu, et à l'instar finalement d'un robot, eh bien, va effectuer la mission qui lui a été assignée. Ce n'est absolument pas le cas, et c'est pour cela qu'un ange ne peut faire qu'une mission, pour justement créer ce contraste avec l'homme qui, lui, a l'occasion, malgré toutes les faiblesses également qui peuvent être celles d'un homme, eh bien, qui a l'occasion de faire mieux qu'un ange, c'est-à-dire d'évoluer, de faire des choix. Un ange n'a pas la possibilité de faire des choix, mais c'est justement cette possibilité qui nous est donnée dans la vie de faire des choix qui nous permet de grandir, qui nous permet d'évoluer. Un ange n'a pas cette chance.
Alors, Dieu annonce à Abraham la naissance de Yitzhak qu'il fera avec Sarah, et Sarah rit. Et là, les commentateurs essayent, disons, d'expliquer pourquoi elle a ri, comment elle a ri. C'est quoi l'explication qui vous semble la plus probable, en tout cas la plus proche de la vérité ?
Alors, si on s'en tient au pshat, a priori, c'est un reproche qui est fait à Sarah, puisque ce reproche va être formulé par la suite. Alors, il sera formulé en réalité indirectement, hein, puisqu'il ne sera pas fait à Sarah, mais il sera fait à Abraham, ce qui suscite d'ailleurs un certain nombre de questions de la part de nos commentateurs. Si Dieu reprochait à Sarah d'avoir ri, pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas adressé à Sarah directement ? Pourquoi est-ce qu'il fait ce reproche indirectement à Abraham, hein, en lui disant « Pourquoi est-ce que ta femme a ri ?» Rappelons qu'Abraham lui-même avait accueilli avec un certain scepticisme l'annonce de la naissance de son fils. Alors, il y a quand même une différence malgré tout, hein, qui est rapportée par l'ensemble des commentateurs entre la réaction d'Abraham et la réaction de Sarah. C'est le fait de croire, si au fond, finalement, le rire est lié tout simplement à l'annonce de quelque chose qui paraît totalement impossible, mais tout en l'intégrant, on peut très bien rigoler. Je rappelle que dans le mécanisme du rire, le rire est tout simplement provoqué par le fait qu'il y a un décalage entre a priori une réalité et ce qui est annoncé. C'est ce décalage qui crée le mécanisme du rire. Donc forcément, là, une annonce qui est une annonce totalement insolite, qui défie les lois de la nature, puisqu'on annonce à une vieille dame qui est déjà ménopausée depuis depuis un certain temps qu'elle va donner naissance à un enfant, c'est quelque chose qui paraît totalement absurde. Et donc, il déclenche, j'ai envie de dire, de manière presque mécanique, le rire. Pour autant, on peut être en mesure d'intégrer la chose. Elle peut nous faire rire, elle peut nous amuser, elle peut nous émouvoir. Ça peut être un rire de joie. Hein. Le rire, c'est aussi... ça peut être le rire moqueur, mais c'est également le rire de la joie. Mmh. Et donc, on peut tout à fait entendre qu'une personne puisse rire parce que tout simplement, il y a ici un décalage entre l'annonce qui est faite et, a priori, la réalité naturelle, mais que pour autant, la personne intègre ce qui lui est dit. A priori, Avraham a parfaitement intégré. Il intègre parce que cette nouvelle est annoncée directement par Dieu. Sarah, d'après certains de nos commentateurs, en réalité, a eu du mal à intégrer ce qui lui est dit, tout simplement parce qu'elle pouvait le prendre sous la forme d'une bracha. Moi, c'est une explication qui me plaît, plutôt que de dire que Sarah a vraiment manifesté un grand scepticisme à l'annonce de cet ange, en se disant « c'est totalement impossible ce qu'on est en train de m'annoncer ». Je pense que Sarah a peut-être pris cette annonce tout simplement comme une marque de politesse de la part de son hôte, de la part de l'ange, et lui dire, eh bien, en quelque sorte, voilà, tu vas avoir un enfant, je te souhaite d'avoir un enfant. Mmh. C'est une formule de politesse courante et vous arrivez dans plusieurs situations lorsqu'on voulait réconforter une personne, peu importe, soit une personne malade ou une personne dans une autre difficulté, de lui formuler à notre manière une bénédiction pour que la situation s'arrange. Et donc, c'est peut-être que Sarah a entendu de cette déclaration, ayant du mal à comprendre qu'il s'agissait en fait d'une véritable annonce. Il faut aussi souligner, Jean, je le dis très rapidement, que Sarah n'avait pas forcément connaissance de l'annonce qui avait été faite par Avraham. C'est ce que pense un certain nombre de commentateurs. Avraham avait gardé pour lui l'annonce qui lui avait été faite directement.
Elle l'a entendu derrière la tente. Alors, Dieu annonce à Avraham, là aussi on ne sait pas pourquoi il lui a dit, mais il y a des commentateurs qui vous expliqueront. Donc Dieu annonce à Avraham la destruction de Sodome et de Gomorre, et il y a une réaction et une discussion entre Avraham et Dieu, totalement étonnante.
Oui, c'est un peu surréaliste. Oui, c'est surréaliste.
Je peux employer le terme surréaliste. C'est quoi cette discussion? Alors, c'est un peu un marchand de tapis?
Alors, premièrement, ce qui est très surprenant, vous avez raison, c'est cette discussion surréaliste, un petit peu, oui, presque de marchand de tapis, finalement, pour savoir à combien de justes on doit s'arrêter pour pouvoir éventuellement sauver cette ville. Mais ce qui est presque plus étonnant, c'est la nécessité que Dieu éprouve de partager ce projet de destruction de Sodome avec Avraham, comme si finalement Avraham allait avoir le dernier mot, ou comme si Dieu n'était pas capable de prendre une décision tout seul, puisque c'est de cette manière que le texte nous présente les choses. Dieu a éprouvé véritablement le besoin de ne pas cacher ce qu'il allait faire à Avraham. Alors, soit il s'agit, d'après certains, simplement aussi d'une marque de respect envers Avraham, puisqu'à partir du moment où Dieu vient d'annoncer à Avraham que cette terre lui appartient, eh bien, il est normal qu'il lui indique ce qu'il va se passer à l'intérieur de cette terre, et si jamais, eh bien, certaines choses doivent évoluer, ou en l'occurrence, une ville doit être détruite, eh bien, il est normal d'en informer Avraham. Mais il y a aussi, je pense, une volonté de la part d'Akadosh Baruch Hu, de la part de Dieu, presque de se faire connaître finalement auprès d'Avraham. Il y a une relation d'intimité qui s'est créée entre Dieu et Avraham. Rappelons que le projet d'Avraham dans le monde, c'est justement de faire découvrir cette grandeur de Dieu qui était totalement absente à son époque. Et dans l'attitude qui est celle ici, dans la démarche qui est celle d'Akadosh Baruch Hu, de parler à Avraham, plutôt que de se présenter comme un Dieu qui est le Dieu de la rigueur, Dieu du jugement, c'est plutôt le Dieu de la bonté, en lui disant, eh bien, tu vois, il y a ici une ville qui n'a pas de projet, finalement. Une ville dans laquelle tout ce qui s'y passe en termes, justement, d'absence de bonté, en termes d'égocentrisme, eh bien, m'oblige à prendre une décision. Mais sache que s'il y avait un certain nombre de justes, eh bien, je serais capable, justement, dans la grande bonté qui est la mienne, de donner une deuxième chance à cette ville.
Alors, j'ai donné juste concernant toujours la question de Somme de Mort, d'un commentaire de Rambam qui dit qu'en plus, évidemment, je dirais, la dépravation du peuple. Il dit, une des choses qui a été confirmée pour le choix de la destruction, c'est parce que la ville et que ses habitants refusaient de prêter assistance aux pauvres et aux nécessités. C'est quelque chose, c'est le contraire de la tzedaka, c'est comme ça qu'on comprend.
Mais c'est tout simplement l'inverse du modèle qui est incarné par Avraham. C'est intéressant, d'ailleurs ce n'est pas par hasard que dans cette paracha, nous mettons un petit peu en perspective, au début de la paracha, l'attitude qui est celle d'Avraham, qui lui va l'ifnim meshurat hadin, qui va au-delà de ce que la loi lui impose, en allant au-devant de ses hommes, alors qu'en principe il devrait être à l'intérieur de sa tente, en train de se reposer. Donc Avraham qui est porté, même lorsqu'il est malade, finalement par ce désir d'aider les autres, ce désir de créer un relationnel avec les autres, et cette ville de Sodome où c'est exactement l'inverse, où non seulement eh bien, les gens ne cherchent pas à créer de relationnel avec les autres, mais ce modèle est carrément érigé en loi. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Et ce que vous venez de rappeler, Jean, vous rappelez le Midrash qui dit qu'il était totalement interdit de manifester tout acte de chesed. Une société dans laquelle non seulement le chesed, la bonté n'existe pas, mais devient carrément un anti-modèle finalement, à tel point qu'il y a une loi qui interdit de manifester tout acte de chesed, est une société qui n'a pas d'avenir, c'est une société qui doit disparaître.
Alors, on va malheureusement sauter beaucoup de sujets. Les gens qui vont sauver Lot, l'histoire de la femme de Lot qui se transforme en statue de sel et qui finalement, à cause de ça, fait créer, vous l'avez dit, des rois d'Israël et d'autres grands personnages. L'histoire d'Avimélère, c'est un peu la même histoire que ce qui s'est passé avec Pharaon. On va passer aussi de l'affaire de Hagar, qui a été béni par Dieu, l'annonce de Sarah qui a évidemment accouché de Yitzhak, son accouchement, et on va parler d'un sujet important, la Akedat Yitzhak. D'abord, comment on traduit littéralement Akedat Yitzhak ?
La ligature d'Isaac.
D'accord. Alors, il y a une question préliminaire. À la prière de Rosh Hashanah, on a l'habitude, dans une chanson très connue, de raconter toute l'histoire d'Yitzhak, de cette ligature. Il y a un rapport entre Rosh Hashanah et l'Akeda ?
Bien sûr, ce rapport, c'est le chauffard. Ce rapport, c'est la corne de bélier. Cette corne de bélier, c'est tout simplement le bélier qui a été sacrifié en lieu et place d'Yitzhak. C'est la fin de cet épisode de l'Akedat Yitzhak, la toute fin de cette paracha de Vayera, où alors que le geste d'Avraham a été interrompu par l'ange, Avraham lève les yeux et il aperçoit un bélier dont les cornes sont enchevêtrées dans un buisson. Et c'est ce bélier qu'il va prendre et qu'il va sacrifier en lieu et place de son fils.
C'est l'une des
raisons pour laquelle nous sonnons du chauffard et pour rappeler ce bélier. Donc, en rappelant ce bélier, eh bien, c'est rappeler cette abnégation qui a été celle d'Yitzhak. Et en rappelant le souvenir de la Akedat Yitzhak, eh bien, on demande à Kadosh Baruch Hu de faire preuve de miséricorde. Il a eu pitié d'Yitzhak, eh bien, qu'il ait également pitié, qu'il puisse avoir pitié de nous.
C'est la 10e épreuve et la dernière d'Abraham.
D'après la plupart des commentateurs, il faut savoir que la manière dont on va compter ces 10 épreuves diffère d'un commentateur à l'autre, mais effectivement, la quasi-totalité des commentateurs s'accordent à dire que la Akedat Yitzhak a été la dernière des 10 épreuves.
Alors, justement, est-ce que Dieu n'est pas allé trop loin ? C'est quand même extraordinaire de demander à un père qui aime son fils de le sacrifier. Il n'est pas allé un peu trop loin, Dieu, dans cette exigence ?
Alors nous avons un grand principe, Jean, je pense qu'on a déjà parlé à cette antenne, qui est que Dieu n'éprouve jamais une personne au-delà de ses capacités à affronter l'épreuve. Donc si Dieu envoie cette épreuve à Avraham, c'est qu'il sait qu'Avraham va avoir les capacités à trouver les ressources.
Alors,
qu'il va aller au bout de ses ressources
ou pas,
c'est la question, mais Dieu sait qu'Avraham a les capacités d'aller jusqu'au bout. On le voit à la fin, finalement, Dieu ne souhaitait pas qu'Avraham sacrifie ça. Avraham ne le sait bien évidemment pas au début, c'est toute l'épreuve, mais nous voyons au début, Dieu ne souhaite pas qu'Avraham aille jusqu'au bout de son geste. Il veut voir si Avraham, lui, en a les capacités. Est-ce qu'Avraham est capable, tout Avraham qu'il est, pétri de chesed, nous l'avons dit, et c'est sans doute la raison pour laquelle la difficulté est encore plus grande pour lui.
Chesed et Emouna ou Emouna et Chesed ?
Emouna et Chesed, ce sont deux notions qui se complètent, qui se nourrissent presque l'une de l'autre. Avraham, bien sûr, a une grande Emouna, et c'est alors on pourrait dire même pour Avraham que finalement c'est la Emouna ici qui est à l'épreuve du Chesed. Voilà, je dis que ce sont deux notions qui se complètent, qui se nourrissent, mais on pourrait parler dans le cas de cette 10e épreuve pour un homme qui a vécu toute sa vie sur le mode du Chesed. On l'a dit, c'est quelque chose que nous ressassons, mais qu'il est très important de rappeler. Avraham vit sur le modèle du Chesed. Son fils Yitzhak, lui, vivra sur le modèle de la rigueur, tandis que Yaakov, le troisième des patriarches, est un petit peu le juste milieu entre les deux. Il est à la fois pétri de Chesed et de rigueur du din. C'est un équilibre subtil entre les deux. Avraham, lui, est totalement pétri de chesed. Comment est-ce que l'on fait lorsque ce chesed est à l'épreuve, lorsque cet émouna justement est à l'épreuve du chesed, lorsque on demande à Avraham de réaliser un geste qui, a priori, va totalement à l'encontre de ce qu'il est en tant que personnage représentant le monde du chesed. Est-ce qu'Avraham est capable, justement, de par la émouna, de par la confiance qu'il a en Akadosh Baruch Hu, eh bien, de dépasser cette notion de chesed absolu? Et c'est en réalité, ce dont Avraham a besoin pour être Avraham. C'est-à-dire que le chesed, c'est très très important, mais on le sait, il faut avoir un certain équilibre. Ce chesed ne peut pas, finalement, parfois, jouer en défaveur de la personne et lui faire prendre les mauvaises décisions. Et la force d'Avraham, c'est qu'il va réussir, justement, malgré ce chesed qui l'habite, eh bien, à trouver cet équilibre subtil.
Alors, j'ai toujours une question que je me pose quand je lis cette histoire de l'arche d'Israël. Est-ce que Israël savait que c'était lui qui allait être sacrifié ou pas ou...
Alors, Israël ne le sait pas au début, et Israël va poser à un moment donné une question voilà, qui fait dire à nos commentateurs qu'Israël comprend rapidement ce qui se passe. Alors, on l'a dit, Israël n'est pas un enfant, Israël a 37 ans, à 37 ans, il a une certaine maturité.
Ouais.
Israël ne le sait pas au départ lorsqu'il entreprend ce voyage, mais très rapidement, Israël se rend compte qu'il manque un élément important. Lorsque finalement il part seul avec son père vers la montagne, Aïe, à Séléola, Israël va poser la question, mais où est donc l'animal pour l'Holocauste? Et son père lui répond, il lui dit, tout simplement, Elohim, Irelo, à Séléola, béni. Il lui dit, Dieu choisira lui-même l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. Alors, on peut d'ailleurs lire cette réponse de deux manières. Ou bien Dieu choisira lui-même l'agneau pour l'Holocauste, virgule, mon fils. Ou bien, cet agneau pour l'Holocauste, mon fils, c'est toi, mon fils, justement. Et en réalité, à ce moment-là, Yitzhak comprend parfaitement ce qui est en train de se jouer. Et Yitzhak a la possibilité de s'enfuir. Yitzhak est grand, Yitzhak est rapide. Yitzhak peut partir. Mais Yitzhak, de son plein gré, accepte d'aller jusqu'au bout de cette mitzvah qui, rappelons-le, et vous l'avez dit tout à l'heure, est dénommée directement par rapport à Yitzhak. Elle s'appelle la Akedat Yitzhak, elle ne s'appelle pas la Akedat Avraham. C'est intéressant, c'est une mitzvah qui est confiée à Avraham et qui pourtant porte le nom d'Yitzhak pour montrer à quel point le fait qu'Yitzhak est accepté, malgré le fait qu'il savait pertinemment à ce moment-là qu'il était la Ola en question, l'Holocauste, a accepté d'aller jusqu'au bout de cette mitzvah qui avait été imposée par Dieu.
On va raconter l'histoire de la Akedat parce que le temps nous importe un peu. Alors, la fin de cette paracha, c'est la naissance de Rivka, prénom que j'aime beaucoup, celui de ma maman, donc j'embrasse d'ailleurs. Rivka, c'est quoi, la généalogie de Rivka qui va devenir la future femme de Isaac, d'où elle vient?
Alors effectivement, le dernier paragraphe, un peu surprenant parce qu'on fait de la généalogie, on nous a parlé beaucoup d'histoire, puis tout d'un coup, on replonge dans la généalogie à la fin de cette paracha. Je pense qu'il y a plusieurs messages dans cette généalogie, c'est de montrer, on le sait, on va le voir dans les parachutes suivantes, notamment dans la paracha de Chayé Sara, que Rivka ne venait pas forcément d'une famille aux mœurs extraordinaires. On connaît la morale peu recommandable de son père, celle de son frère également, qui sera un personnage qui occupera un rôle tout à fait central dans les prochaines sidrotes. Et pourtant, Rivka a réussi à tirer son épingle du jeu. Rivka elle-même est pétrie de chesed. Et rappelons que lorsqu'Avraham va demander à son serviteur Eliezer d'aller chercher une épouse pour son fils, il ne souhaite pas, surtout pas, qu'il la cherche en Canaan, parce qu'il a compris que dans les mœurs, malheureusement, il y a aussi un caractère héréditaire. Je crois qu'on avait posé la question il y a une ou deux semaines, vous m'aviez demandé est-ce que les midot, est-ce que ces qualités humaines, est-ce qu'elles se transmettent de génération en génération? Alors elles se transmettent d'une certaine manière, je vous avais dit qu'il faut les travailler, mais qu'en tout cas, lorsqu'il y a des midot qui sont ancrées dans des familles, eh bien ces traits de caractère, ces qualités humaines positives ont tendance à se transmettre. Malheureusement, lorsqu'elles sont négatives, elles ont aussi tendance à se transmettre, ce qui n'est pas forcément le cas pour d'autres choses qui relèveraient de simplement d'une idéologie où là, on est tout à fait en mesure d'une génération sur l'autre de penser les choses différemment. Et c'est la raison pour laquelle Avraham ne souhaitait pas que l'épouse pour son fils soit choisie parmi les filles de Canaan. En revanche, eh bien, nous voyons que même si Rivka a grandi dans une famille où on n'était pas forcément sur la même longueur d'onde qu'Avraham en matière d'idéologie, eh bien, les midot étaient présentes, les qualités humaines étaient présentes et Rivka va s'avérer être l'épouse tout à fait idéale pour son fils Yitzhak.
Merci Monsieur Gourabin, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom à vous tous, merci à Lucas pour la réalisation technique et vous n'oubliez pas que cette émission est également diffusée sur le site internet, mais là Lucas va nous le rappeler. Merci à vous, Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.
Shabbos Koydesh, Shabbos Koydesh, Yudelech prepare for Shabbos Koydesh, joy is in the air for Shabbos Koydesh, everyone with a soul aflame to meet the Shabbos Koydesh, everyone with a role to play to greet the Shabbos Koydesh, a priceless gift, a spiritual lift, every everyone finds a way to assist.